Denis Gravel est en place, vêtu de son plus grand sourire. T'as de l'air heureux.
C'est un vrai sourire.
Ça se passe. La fin de semaine de 4 jours qui s'en vient, qui te rend heureux de même.
Oui, sincèrement, oui. La semaine avance tranquillement, pas vite. Les gars finissent aujourd'hui. C'est leur dernière journée.
Ils ont congé demain pour jeudi?
Oui. C'est oui, exact. Donc, il n'y a pas eu assez de tempête vraisemblablement cet hiver. Fait qu'on a gagné une journée de Pâques de plus. J'ai réglé mes pneus. Je suis vraiment content d'avoir réglé mes pneus ce matin.
T'étais donc bien pressé.
C'est parce qu'il fallait que je rachète des pneus. Et je suis allé chez Desharnais ce matin, nos partenaires, pour le Rock'n'Ball. Puis je suis tellement nerveux parce que je connais rien là-dedans. Là. Puis je m'en vais au comptoir, je dis salut à Yves. Yves travaille là-bas au Desharnais Pierre Bertrand, juste ici à côté. Yves Landry, ancien collègue, puis que vous entendez d'ailleurs sur les pubs de Desharnais.
Quelle voix radio publicitaire.
Mais le gars qui s'occupe de moi, je fais rien que penser à mes pneus, puis là, il dit, faut que je réponde à des questions. OK, c'est quoi ma sorte de char? Ouais, c'est telle sorte, telle affaire, telle année. Dans ma tête, je fais good, je m'en souviens par cœur. Là, il me dit, c'est quoi ta grosseur de roue? J'ai dit, j'en ai honnêtement aucune idée. Il dit, hey, pas de trouble, man.
On va regarder sur le côté de ta porte.
Il dit, je vais aller le voir dans le parking. Il est où ton char? Hein? Il est dans le fond. Il est de quelle couleur? Il est noir. Fait que là, le gars, il s'en va. Puis il revient pas. Puis à un moment donné, il revient. Il dit, hey, excuse-moi. Il dit, ça se peut-tu que ton char soit gris? J'ai dit, ouais, mon char, il est gris.
Tu as donné quelle couleur?
Noir. Je me suis gouré.
Mais t'étais-tu...
J'étais tellement...
C'était quoi dans les stationnements de magasins?
J'étais tellement focussé sur... Faut que je me souvienne de l'année puis le modèle. Ouais. Je connais rien en char.
Mais là, t'avais déjà eu un char noir.
J'ai déjà eu un char noir. Mon ancien char était noir. C'est pas une excuse.
T'étais tellement sur quelque chose d'autre. Mais la couleur...
En passant, ça roule en tabarnouche chez Desharnais, là, parce que t'arrives là, il y a du monde. C'est une fourmilière, là. Puis tu te dis, tu sais, premier réflexe, parce que d'une salle d'urgence, il y a du monde, mais il n'y a rien qui se passe. Fait que premier réflexe, tu rentres, tu te dis, il y a plein de monde. Tu te dis, mon Dieu, j'en ai pour quoi? Une demi-heure, 45 minutes?
Ouais.
Si t'enlèves la minute et demie que le pauvre gars a perdu à chercher un char noir qui était gris, 5 minutes, j'avais mes pneus neufs, j'avais mon rendez-vous, j'étais seté, là.
Sais-tu ce qui m'intéresse le plus?
C'est quoi?
C'est ce que lui a dit aux autres au garage. J'ai Denis rencontré Gravel.
Il est
même pas capable, de savoir la couleur de son char.
J'ai pas demandé la grosseur des pneus, là. J'ai demandé la couleur de son char.
En même temps, je suis obligé de dire que ça me ressemble un peu, là. Je plaide coupable.
Ben oui.
Le mauvais modèle.
C'est pas grave. Hey, c'est un match possiblement sans lendemain ce soir pour le Canadien de Montréal face aux Hurricanes de la Caroline. La bonne nouvelle, c'est que les Hurricanes vont avoir un club B ce soir. Ouais. Quelques joueurs qui vont être laissés de côté pour pouvoir se reposer et penser à leurs blessures. Mais pour le reste, on va espérer que le Canadien fasse ça en grand ce soir pour confirmer leur place en séries éliminatoires.
Ce serait le bout du bout, hein, qu'on se ramasse à la fin de la semaine. Puis finalement, c'est les Blue Jackets parce que les Blue Jackets
perdent en ligne.
4 en ligne, 5 en ligne, je ne m'abuse. Puis on a un jeune gardien qui a été rappelé, dont j'oublie le nom, qui est rendu à 2 blanchissages en 4 sorties, qui a une tenue impeccable devant le filet. Il y a comme plein de facteurs qui font en sorte que présentement, les Blue Jackets sont vraiment, mais alors là, vraiment le vent dans les voiles. Puis le Canadien est plus capable de s'acheter une victoire. De la misère à mettre des buts. Ça serait terrible de manquer les séries éliminatoires parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher le point au singulier qu'on avait besoin. Ouais, j'espère qu'après une période, ça va être 4-5-0 puis ça va être réglé. Mais moi, les Moses d'équipe B, ça me fait peur. Les Blackhawks de Chicago, techniquement, c'était une équipe B, là, même avec leur alignement A. Va falloir que ça donne un coup à soir. Il va falloir que ça sente les séries pour vrai.
Oui, et puis on a organisé un petit truc ici à la station. Enfin, on va écouter le débat des chefs ce soir, puis après ça, il va y avoir la game de hockey. Sondage super intéressant, sondage léger qui est disponible sur le site du journal. Les Québécois qui ont répondu à certaines questions intéressantes, puis je vais vous poser la question à vous deux, tu sais, je vais embarquer là-dedans aussi. Si vous aviez à inviter quelqu'un à la maison, un chef de parti au fédéral, ce serait qui votre premier choix, Pascal? Et pourquoi?
Pierre Poilievre.
Pierre Poilievre, pourquoi?
Devine.
Ah ouais, pour ça? OK. Tabarnouche, je l'avais jamais vu de même.
Ben oui, toi, tu devines ce que tu veux deviner.
Ben là, quand tu ramènes un gars à la maison...
Non, mais ça va être sensiblement ça. J'aimerais ça le faire sortir de...
Sa zone de confort. Cassette.
Ce serait quoi les questions que tu pourrais poser?
Pourquoi être en politique? La première question que je lui poserais, c'est ça.
Ouais.
Après, pourquoi il mise que sur lui dans sa campagne?
Ça, c'est une excellente question.
Après, qu'est-ce qu'il veut faire avec le Canada?
Qu'est-ce qu'il veut faire avec le Canada? OK.
Qui l'a inspiré dans le passé? Je veux savoir son essence. Okay. C'est quoi?
Toi, Denis?
Ça peut pas être Mark Carney. Ça me tente pas de pratiquer mon anglais puis je comprends rien de ce qu'il dit en français.
Yes, no Brun's Toaster.
les vieilles anecdotes d'Éric Lapointe, je les connais déjà. J'en connais même que M. Blanchette veut probablement pas qu'on jase ensemble. Là. On a vu ce que ça fait avec Kevin Parent. Tout le monde en parle. Je veux pas créer de malaise. Je veux passer une belle soirée. Jagmeet Singh, je sais pas, je trouve qu'il est pas important dans cette campagne électorale-là.
Mais il a l'air super smart.
Mais pour vrai, je l'ai dit aux filles, moi c'est Pierre Poilievre, puis je poserais probablement pas de questions de politique avant 45 minutes ou avant deux pintes. Parce que j'ai de la misère avec Pierre Poilievre à distinguer qu'est-ce qui est en carton, puis qu'est-ce qui est à lui. Les campagnes de pub où il y a les bonnes répliques, je le trouve bon. Je trouve qu'il y a de l'air naturel. Je trouve qu'il y a de l'air drôle. Je me demande s'il est drôle pour vrai ou s'il est bien scripté.
Mais c'est pour ça que je veux connaître son essence. Ouais, pourquoi il est là? C'est qui ce gars-là?
J'aimerais ça, moi, entendre le gars loin des slogans puis des phrases qu'il a répétées ad nauseam pendant un an et demi. Fait que j'y parlerais de n'importe quoi pendant 40 minutes. Puis après deux, trois pintes, là, ben là, on commence à parler de politique.
Ah, je trouve ça intéressant. Ouais. Pierre Poilievre, il a de l'air d'un gars vraiment cool. J'ai jamais rencontré Pierre Poilievre. Je trouve que lui puis sa conjointe, il aurait eu avantage à la mettre un peu plus de l'avant. Sa conjointe est tout à fait charmante, hyper intelligente. C'est une personne qui a grandi à Montréal, qui élève ses enfants en français. Mm-hmm. Ce que je ne savais pas. Moi, j'étais persuadé que Pierre Poilievre puis elle élevaient leurs enfants dans la langue anglaise. Puis
mais
finalement, c'est pas,
elle qui
c'est pas ça, pantoute.
Tu sais, mettons qu'il la mettait plus de l'avant que ses candidats, dont certains qu'on ne connaît pas.
Je parle au niveau du brand conservateur. Ouais. Là, là, les histoires de « Ah, ben là, ça va être un recul des femmes, l'avortement, tout ça. » Je pense qu'il s'il l'avait mis peut-être un peu plus en évidence, ils ont tenté de le faire, ça aurait peut-être été un peu plus positif pour lui. Mais je regardais le sondage, puis la majorité des Québécois, écoute, je dis une majorité, mais à 19%, les gens inviteraient à la maison Yves-François Blanchette, et c'est le numéro un au Québec pour ce qui est des gens qui voudraient manger avec un chef de parti.
Ben, c'est le seul qui est un francophone natif. Ça me surprend pas. C'est le choix facile. Là. Je veux dire, on a l'impression que les autres sont loin. On a l'impression qu'ils parlent pas notre langue. On a l'impression que c'est des étrangers, peut-être un peu aussi. Le fait qu'il ait été gérant d'artiste avant, le fait qu'il soit pour le Bloc, le fait qu'il soit un francophone. Je suis pas surpris. T'es surpris de ces chiffres?
C'est la langue?
Ben, oh, oui, absolument.
Moi, j'aurais pensé Mark Carney, Pierre Poilievre, là, que ça aurait été dans les plus choisi au Québec. Visiblement, c'est Yves-François Blanchette. Ça me surprend pas à quel point il est dans la marde non plus. Si tu veux inviter Yves-François Blanchette à la maison, je trouve ça très particulier. Mais écoute, je suis qui pour critiquer le choix des gens? Poilievre, 12%. Mark Carney, 12%. Jagmeet Singh, 12%.
Triple égalité.
Ouais, qu'est-ce que tu dis à Jagmeet?
Qu'est-ce que je lui dis?
Comment tu fais pour aller magasiner chez Gucci, te faire prendre en photo avec tes nouveaux trucs Gucci, mais de dire que t'es là pour les pauvres?
Mais ça, je sais que côté image...
Puis ça passe!
Tu sais, mais ça dépend, tu viens d'où. Si tu viens d'un contexte riche, déconnecté un petit peu de ce que d'autres ont vécu, puis t'as pas été proche de ces gens-là, t'as pas été dans la classe moyenne... Je suis vraiment d'avis avec vous pour connaître des gens, mettons, qui ont pas eu les mêmes complexités dans la vie que vous, je pense, vous trois, là, nous trois. C'est une chose, mais quelqu'un qui a mangé ses bas pendant plusieurs années, qui est rendu à cette étape-là, a quand même beaucoup à apprendre à ceux qui y sont encore.
J'agace bien Manon Massé, là, parce que jamais je m'entendrai avec elle, là, mais je pense pas qu'elle se fasse prendre à acheter des sacoches ou du linge de luxe en photo, puis après ça, dire qu'elle est là pour les pauvres.
Elle est conséquente.
Elle est conséquente.
Puis tu dis que ça passe pour Sinks. Ça passe pas, t'as vu les chiffres? Je veux dire, je parle
même à 12%.
Ben pour aller jaser avec, mais tu regardes les intentions de vote de son parti, puis c'est différent. Puis c'est normal que ce soit différent aussi. Je veux pas nécessairement avoir le goût de prendre une bière avec la personne qui va aller négocier des pactes économiques à l'international. Tu sais, dans le temps, quoi?
Ben oui, c'est intéressant.
Non, ça m'endort, ça m'emmerde. Va gérer, puis tu t'arriveras avec les résultats. Hey, moi, je veux parler de hockey, je veux parler de lutte, je veux parler des affaires qui m'intéressent, je veux parler du local bien avant l'international. Mais, tu sais, dans le temps, je t'aurais dit Jack Layton. Moi, je prendrais une bière avec Jack Layton. Ouais. Je voterais-tu pour Jack Layton? Non.
Comme la majorité des Québécois à l'époque, quand il y a eu la vague orange.
Ouais, ben, eux autres ont voté pour. Ils ont voté pour la bière.
Parce que même si c'était fait pogner dans un salon de massage à Toronto,
Les gens voulaient quand même aller prendre une bière.
Ben écoute, on a tout droit à l'erreur, voyons donc. Hein? Même mon oncle Jack.
L'effet Trump maintenant sur le choix des Québécois pour ce qui est des prochaines élections. Quelle est l'influence de Donald Trump sur votre choix du parti politique ou du chef pour lequel vous voterez probablement aux prochaines élections? Moi, j'aurais dit un bon 50 %, c'est plus élevé que
c'est
ça.
C'est plus
Denis.
Que ça, oui.
Mais c'est la question de l'urne.
On est à 63 %. Ouais. Donc, ça aurait été tellement à l'avantage de Poilievre de sortir comme un chien de garde du Canada à tous les jours, puis à chanter des bêtises à Donald Trump. Ça aurait été tellement à son avantage de le faire. Visiblement, il a dit, moi, je suis pas encore au pouvoir, je peux pas nécessairement négocier, il m'a laissé Carney le faire. Et c'est tout à l'avantage de Carney.
Je la comprends pas, la campagne électorale de Pierre Poilievre. Puis j'ai l'impression que sur le plancher des vaches, entre autres, dans la région de Québec, il y a peut-être même des gens sous la bannière des conservateurs qui, à micro fermé, te le diraient. Je comprends pas, moi non plus. Je comprends pas pourquoi on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, l'éléphant jaune, là. Je veux dire, c'est la seule affaire que les gens entendent parler depuis le début de l'année. C'est la question de l'urne, puis ça a augmenté. Hein. Ça, c'est un sondage québécois. Au fédéral, quand la campagne électorale a commencé, d'un bout à l'autre du pays, c'était le tiers des Canadiens qui disaient « Oui, c'est Trump qui va influencer mon vote, puis c'est ça qui est important de déterminer. Choisir qui va aller négocier avec Trump. » En dedans de deux semaines, c'est monté à 50 %. C'est passé de un Canadien sur trois à un Canadien sur deux. Ce qui arrive avec ça, par contre, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne regarderont pas le débat. Parce que le débat, on va parler de quoi? On va faire tout ce qui est campagne électorale standard, on dirait que ça tombe à l'eau, ça tombe dans le vide. C'est l'actualité internationale pour une rare fois qui tient le monopole. Puis moi, je trouve que Pierre Poilievre est passé complètement à côté. Puis ça paraît dans les résultats.
T'sais, je sais pas ça va être quoi l'issue des élections, mais j'ai l'impression qu'on va se poser des questions quant au leadership du chef en place. En raison de la campagne désastreuse qu'il a connue. S'il a une bonne performance, on n'en parle pas. Mais si il réussit à perdre et perdre de gros, j'ai l'impression qu'on va peut-être décider de le changer pour ce qui est des prochaines années.
Dans une campagne électorale normale, d'après toi, c'est quoi les résultats qu'on a présentement?
Conservateur.
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que Mark Carney, même dans ses publicités très courtes, et incompréhensible.
Non. Puis il sauve des entrevues. Lui, là, c'est reste de côté, puis ça va bien aller. Puis c'est exactement ce qu'il fait, là.
Pis les conservateurs étaient en avance avant tout ça.
20 points.
Dire, ça vous appuie, là.
Il y avait 20 points d'avance.
C'est pas le genre de personnage, habituellement, Mark Carney, qui plaît à l'électorat, particulièrement au Québec. Sauf que là...
Mark Carney, c'est Michael Ignatieff. C'est... Il y a le charme c'est vrai. D'une statue morte.
Ouais. J'allais te proposer, c'était-tu Stéphane Dion, son nom?
Stéphane Dion,
ouais, qui était un intellectuel et qui s'en cachait pas. C'était dur de connecter en tant qu'électeur puis de dire « ça va être mon premier ministre ». Mais l'international, c'est tellement loin de nous qu'on dirait que ça nous rassure peut-être d'avoir une face de plâtre puis un gars qui a de l'air d'un intellectuel ou d'un banquier pour aller négocier ces choses-là.
Je regarde les sondages. Qualité incarnée par les chefs. Oui. Qui a les compétences nécessaires pour gérer les relations avec les États-Unis, en particulier avec le président Donald Trump? 53 % des Québécois disent Mark Carney. Mm-hmm. Seulement 18 % des Québécois disent Pierre Poilievre.
C'est là que ça fait mal.
Qui a les compétences nécessaire pour maintenir l'économie du Canada dans le contexte incertain actuel? 52 % pour Carney, 21 % pour Pierre Poilievre, alors que Carney était le conseiller principal de Justin Trudeau pour ce qui est de l'économie. C'est lui qui pissait les informations à l'oreille.
Oui, mais on fige comme des chevreuils en avant d'une vanne quand on sent le danger puis l'incertitude. Si les conservateurs étaient au pouvoir depuis 4 ans, je pense que les conservateurs seraient partis avec une grande longueur d'avance à cause de l'incertitude économique, à cause du climat qui fait en sorte qu'on n'est plus sûr de rien. Dans ce temps-là, on fige.
Ouais.
Il est déjà là. Le gouvernement est déjà là. Il est déjà en place.
Il est rodé. Ses ministres, ses députés sont placés. Je pense aussi le fait que Chrystia Freeland ait quitté à un moment en disant « Justin Trudeau ne m'écoutait pas. Mm-hmm. J'ai fait des recommandations. » en finance qui n'ont pas été écoutés. Il y avait sa tête de cochon est allée de l'avant. Je pense que ça peut avoir joué en partie de façon inconsciente ou consciente dans la tête de certaines personnes en se disant « Ouais, mais ça avait bien beau être son bras droit, Carney. Est-ce que Trudeau l'écoutait? » Il avait l'air de vouloir faire toujours ce qu'il pensait dans sa représentation personnelle et même au sein de ses décisions.
Puis ça a aidé Mark Carney de ne pas faire une campagne électorale sur les sujets habituels de campagne parce que là, on aurait pu voir les continuités possibles avec Justin Trudeau. Là, on les aborde juste pas parce qu'on parle de l'économie internationale. On parle de tout ce qui a changé depuis que Justin Trudeau est parti. Fait que tout ce qu'il y a eu avant, on dirait que c'est devenu irrelevant
et
pour bien du monde.
Poilievre, c'est le premier dont on parlait autant que Harper dans le temps. T'sais, après, tu as eu Rona Ambrose, après, tu as eu Andrew Scheer, après, tu as eu Erin O'Toole, puis tu as eu par intérim une femme dont je me souviens plus le prénom et le nom de famille. On en, ces acteurs-là du Parti conservateur, des chefs conservateurs qui sont passés dans les dernières années. Depuis Harper, c'est Poilievre qui a réussi à ramener de la lumière malgré tout.
Oui, mais Rona Ambrose était par intérim, mais c'était une excellente chef de parti. Ça ressemblait
mais c'est
à la
l'autre
mère de Stéphane.
C'est l'autre après.
Chaque fois que je la voyais parler, je disais, c'est la mère de Stéphane. Je l'aime. Okay. Je l'aime.
L'autre après Otto, c'était Candice Bergen.
Candice Bergen,
oui. Je ne m'en serais pas souvenu.
Il n'y a pas grand monde qui se souvienne d'elle. Qui a les qualités nécessaires pour favoriser la croissance économique de votre province? 33% des Québécois disent Carney, 22% des Québécois disent Pierre Poilievre. Là, ça commence à se resserrer au niveau des pourcentages. Qui a les compétences nécessaires pour réformer le système d'immigration? Là, c'est Pierre Poilievre qui domine d'un seul point de pourcentage.
Il en a fait un cheval de bataille.
C'est 27 % contre 26 % Ensuite, qui a la capacité de réduire vos impôts? 32 % Pierre Poilievre contre 23 % Mark Carney.
Réduire les taxes et les impôts. Ça fait un an qu'on ouvre YouTube puis qu'il nous le dit, là, je veux dire.
Qui comprend les préoccupations des gens comme moi? 24 % des gens ont dit Pierre Poilievre, 22 % des gens disent Mark Carney.
C'est intéressant, ça. Puis ça nous montre que, parce que on se fera pas de cachette, Mark Carney, sa campagne standard est désastreuse au Québec. Puis ça y a pas fait perdre un seul point. Refuser un face-à-face. Aller baragouiner dans un français médiocre sur les tribunes qu'il a sélectionné en fuyant les autres. Même dans les annonces, il n'est pas capable. Puis le débat de ce soir, probablement que ça va être un accident de char aussi, mais il n'y a rien qui colle. C'est fascinant, cette campagne-là.
C'est pas dans le sondage que j'ai lu là, mais ce serait 70 % des Canadiens qui auraient déjà fait leur choix et que peu importe ce qui se passe dans les débats, ils changeront pas d'idée. Bon, est-ce que ce soir, on pourrait faire tourner le vent de bord au Québec avec le débat en français avec Pierre Poilievre et Mark Carney?
J'y crois pas. J'y crois pas. Premièrement, parce qu'il y en a plein qui vont pas l'écouter à cause du Canadien, même si ça commence une heure d'avance. Il y a bien des gens qui veulent bien plus savoir ce que François Gagnon pense du fait que Heinemann va jouer à la place de Kapanen. Puis moi, je juge pas ça, hein, by the way. Il y a bien des gens qui ont un jugement de valeur là-dessus. Moi, quand t'as fini ta journée, là, si t'as le goût d'écouter le hockey, parce que c'est ça qui te fait du bien, écoute le hockey, puis fais-toi du bien. Tu le mérites, t'as travaillé fort. J'ai aucun problème avec les gens qui vont faire ce choix-là ce soir. D'autant plus que, regarde, les sondages nous le disent, c'est réglé. À soir, là, Mark Carney déchirerait sa chemise, montrait sa table, puis ferait une danse de go-go boy. Il perdrait pas un point.
À moins d'une catastrophe.
Au moins un, j'espère.
À moins d'une catastrophe ce soir, je pense pas que ça fasse bouger ben
au non, moins auprès de sa femme, j'espère. Non. Au moins.
Tu sais, c'est un débat aussi qui va être assez contrôlé, donc il risque de mieux paraître que si on l'avait fait défiler à TVA. C'est
anecdote comique, je me parlais tout seul tantôt au bureau, je me l'ai fait dire par des collègues. Mais
tu parles souvent, tu
sais. Ben oui, que je l'assume. Je réfléchis des fois à voix haute.
Essaye de pas faire ça dans le pit stop, tu sais, on essaye de.
On te parle, puis tu réponds toi-même à tes propres questions.
Bon, il règle-tu des comptes, là, ou moi, je riais de moi-même, là, j'ai de l'autodérision.
Puis en plus, tu dis, c'est vrai, t'as raison.
Oui, oui. Mais c'est le vote des détenus aujourd'hui. C'est le vote des détenus, des criminels, des gens, fait qu'on les amène aux urnes. Je me disais, eux doivent être divisés quand même avec ce que les conservateurs amènent pour les armes à feu et ce que les conservateurs amènent pour les peines cumulatives.
Ben là, si t'es pour les peines Netflix puis tu veux pas aller en prison, tu vas voter Carney.
Oui, mais si t'es pour les armes à feu puis la déréglementation de ça, Tu sais, là, on est dans le stéréotype funky-cocasse, là. Je veux dire, c'est deux stéréotypes très criminels, là, les armes et les peines. Là.
Puis en même temps, ben les détenus, c'est comme les vieux qui sortent des centres pour vieux. Hein. Ça fait une belle sortie, hein. Fait qu'on va aller voter.
Mais on les filme moins, pareil, quand même.
Ouais, ouais, quand même.
Pas caméra d'enfer.
Mais tu sais, j'écoutais Simon-Jolin Barrette. Excellente entrevue ce matin avec la gang de Rage Against le matin. Simon-Jolin Barrette qui était là, puis qui dénonçait les fameuses peines Netflix. Puis à un moment donné, Rage a posé une question hyper pertinente, là, c'est... Pourquoi on a mis les peines Netflix au Canada? Mm. Puis Simon-Jolin Barrette, au lieu de dire la vérité, il a dit « Je vais laisser le soin au Parti libéral du Canada de vous expliquer pourquoi on a décidé de mettre ça en place. » Mais la prémisse, c'est Justin Trudeau et son organisation qui se sont aperçus que dans les statistiques, au niveau de l'incarcération des Premières Nations ou des personnes racisées, il y avait un trop grand pourcentage.
Trop grand ratio.
Trop grand ratio comparativement à aux citoyens qui étaient blancs, là, occidentaux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire une genre de donner une possibilité au juge de... Regarde, si c'est un membre des Premières Nations, si c'est une personne racisée, on pourrait leur permettre de faire leur sentence à la maison, ce qui fait en sorte qu'ils paraîtront pas d'un chiffre à l'intérieur des murs. Mais le juge à Québec, lui, il peut pas dire « Hey, Denis Gravel, toi, t'es blanc, tu vas aller en tôle pour le même crime que, je sais pas moi, Ravière. »
Quelqu'un de Wendake,
qui est à côté, qui a fait le même crime que toi.
Ouais, non, ça marche pas.
Puis toi, c'était à la maison. Fait que les peines Netflix, là, maintenant, tout le monde a accès à ça.
Ouais,
mais c'est... la prémisse, c'est... On paraît mal au Canada parce qu'il y a trop de personnes autochtones en prison, il y a trop de personnes racisées en prison. Fait qu'on va essayer de les sortir des murs juste pour bien paraître d'un chiffre. Puis c'est là-dedans qu'on est là aujourd'hui.
Puis là, t'as vu le nouveau chapitre aujourd'hui qui est tout aussi inquiétant, sinon plus, le nombre de procès qui sont abandonnés. C'est par centaines. Mmh. Manque de temps. Des fois, c'est question de prioriser un procès qu'on juge plus important. Puis c'est des procureurs de la Couronne qui sont sortis puis qui disent, là, des procès, on en annule par centaines. Puis ça, c'est sûr qu'on annule. Faute de temps, faute de planning, faute des fois de dire, ah ben finalement, c'est une agression, mais il vous a pas touché, ou ainsi de suite. Des fois, ça peut être aussi niaiseux que ça. Mais en arrière de tout ça, t'as toutes les ententes qui sont faites aussi, pas pour le bien d'une victime qui dénonce un agresseur, mais juste pour sauver du temps en cours parce que les horaires débordent puis que le système craque de partout. Tu sais, des fois, on a des nouvelles, là. Le procureur de la Couronne et l'avocat de la Défense se sont entendus pour une peine à la maison, tu sais, puis on se dit, ben voyons donc, comme un procureur de la Couronne. Et moi, je me suis fait raconter que des fois... Il y a des victimes qui l'apprennent en même temps que nous autres. Là. Hey, on a eu une entente. Ouais, mais c'est parce que moi, je ne suis pas satisfait.
Ouais.
Moi, je portais plainte. Moi, je voulais le traîner en justice. Mais ils ont fait une entente quasiment dans mon dos. Puis un coup qu'elle était bouclée, ils sont venus me le dire. Normalement, ce n'est pas supposé de fonctionner comme ça. C'est des chiffres. Quand tu mets tout ça ensemble, là, qui dresse un portrait pas très rassurant du système de justice.
Puis les vieux juges ont une problématique au Québec pour ce qui est du système de justice, parce qu'eux autres, s'adapter aux vidéoconférences, là, ça leur tente nécessairement.
Ouais.
Quand il y a eu la pandémie, ils n'ont pas eu le choix.
Mm-hmm.
Mais, puis on pensait que la pandémie allait ralentir à peu près tout, mais avec le système de vidéoconférence, on pouvait avoir des procès où chacun était chez soi.
Ouais.
Ben, ils ont accéléré la justice. Sauf que le juge, lui, qui aime pas nécessairement les nouvelles technologies, dit « Moi, j'aimerais ça avoir ma salle de cour avec mon détenu qui est là, l'avocat de la défense, l'avocat de la couronne, avec un auditoire qui est derrière, puis après ça, avec le jury qui est là. » Ils veulent tout ça dans leur salle de cour. Puis Maître Bellemare me racontait que des fois, lui, là, quand il y a une cause à Rouyn-Noranda, là, lui, il faut qu'il parte d'ici. Puis il monte en char à Rouyn-Noranda, puis après ça, il faut qu'il dorme là-bas, puis après ça, il faut qu'il redescende le lendemain. Mais s'il pouvait faire justement cette vidéoconférence-là avec le juge, là, ben il peut faire 3-4 apparitions en cours pendant la journée un peu partout au Québec. Ils vont sauver énormément de temps. C'est vrai pour le civil, puis c'est vrai aussi pour le criminel. C'est juste que les meurtres, moi, j'aimerais plus que ce soit devant leur père, donc que les jurys soient en place puis que le meurtrier soit là. Mais pour le reste, les vols et tout ça, tu peux mettre ça en vidéoconférence, Denis?
Tu sais, une des grosses portions qui embourbe le palais de justice, c'est souvent des chicanes de divorce puis des chicanes de garde d'enfants. Puis il y en a énormément, ce qui fait en sorte que tu travailles à la chaîne. Tu sais, comme au McDo, là.
Ouais.
Toi, quand c'est ton procès de garde d'enfant, de voir que le juge en a eu 35 avant toi puis qu'il y en a 40 après, quand il arrive à ton dossier, t'as pas l'impression qu'il a lu hein, beaucoup. Toi, c'est ton dossier.
C'est ta vie.
C'est tes enfants, c'est la vie de tes enfants, c'est ta vie à toi.
Ouais.
Puis t'es en avant d'un juge, par vidéoconférence, par exemple, qui a de l'air de s'en calisser comme l'an 40. Et tu te rends compte, après 30 secondes, tu te dis « Ah, oh, bordel, il a pas lu. » Tu sais, c'est le fun, la justice qui va vite. Mais quand tu la vis, puis quand t'es dedans, là, tu trouves ça ordinaire en tabarnane.
Ouais.
Ça fait partie des choses qui fonctionnent pas, tu sais. Quand c'est ton tour dans le système de santé, tu veux qu'ils prennent le temps de te regarder comme faux, de trouver ce que t'as. Des fois, ils vont vite, ils en échappent. Bien, en justice, c'est comme ça aussi. C'est devenu du travail à la chaîne, puis ça ne devrait pas l'être, que ce soit en visioconférence ou en présentiel. Mais là, t'as tellement de pression. L'horaire. Faut régler. J'ai 2 minutes pour régler une histoire de garde d'enfant avec un dossier de 20 pages que j'ai pas lu. Comment veux-tu arriver à émettre des jugements qui font du sens? Mm-hmm.
Même chose en prison. Les prisons débordent. On n'est plus capable de gérer comme auparavant. La hiérarchie entre gardien de sécurité et criminel a éclaté. Quand on parle de peines cumulatives, c'est une chose, mais quand on parle des peines Netflix, moi, je me demande si c'était pas pour aider un peu à un besoin de... enlever du monde des prisons, pas trop en renvoyer à l'intérieur. Puis ça, c'est nivelé vers le bas. C'est un peu dans le même sens de ce que tu dis.
Puis il y a quelque chose de fondamental qui passe pas avec les peines Netflix. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire, si tu donnes une peine Netflix, donne-la à un voleur de banque avant de la donner à un agresseur sexuel.
Ah oui.
Tout ce qui est agression physique contre la personne, ça ne passe pas. Puis c'est pas une question d'être conservateur ou libéral ou à gauche ou à droite. Moi, je sens un malaise qui est quasiment unanime autour de ça. On a encore eu un cette semaine qui a harcelé un paquet de monde en envoyant des photos de sa graine puis en envoyant des messages. T'es une hygiéniste dentaire, tu veux-tu brosser les dents avec mon pénis?
Alex Wilson.
Un beau cave, un beau brochet qui a fait chier puis qui a traumatisé un paquet de monde. Il y a une peine chez eux. Une peine chez eux pour un gars qui passe son temps à harceler du monde avec son téléphone puis son ordi dans les mains. Tu leur places sur les lieux du crime avec les armes du crime. D'après toi, qu'est-ce qui va arriver, mais qu'ils reprennent de la dope?
Ouais, je sais pas si t'étais là hier ou si je parlais de ça avec Pascal, mais tu sais, tu te fais agresser sexuellement par ton voisin. Puis t'apprends, une fois que le procès est fini, que lui va être dans sa maison et te regarder au travers des fenêtres pendant que toi, tu t'en vas travailler. À chaque fois que tu reviens à la maison, il sait que t'es à la maison.
Puis là, la première réaction de ben du monde, c'est de dire, ben déménage. Pourquoi ce serait à toi de déménager?
Pas
pourquoi
la victime? La victime à tout plan.
Exact. Ouais. Pas la victime de déménager.
C'est à l'autre de subir puis de s'organiser. C'est pas à moi. Il ouais. Hey, y a tellement d'affaires qui marchent pas, Yann.
Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle demain, yes. Denis. Hey, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça un congé? De Pascal. Quand Pascal.
Il a scrappé la joke que j'y ai faite.
Meilleur de même.
J'ai commencé le show en disant congé hein? De Pascal.
Est-ce que tu sais pourquoi j'avais ça un congé de Pascal? De Pascal. C'est parce que Pascal, c'était réservé aux gens qui naissaient cette journée-là.
Oh!
Mais toi, ta fête, c'est quand? Ça n'a pas rapport.
23 mars. Mais en fait, c'est juste un congé pour toi. T'as 4 jours de relâche mental.
Non, mais je sais, mais pourquoi ils t'ont appelé Pascal?
Bien, sûrement qu'il trouvait ça plus beau que Shirley, sacrament.
C'est vrai, parce que son père voulait l'appeler Shirley.
Oh yes! Je pense à Shirley!
Mais je pense vraiment que c'est juste ma mère qui était en maudit quand elle remplissait le petit album de bébé.
Shirley, tout était parfait.
Shirley CV!
S'il te plaît.
T'aurais pas eu de carrière à Radio-Canada avec Shirley CV. Pascal CV, t'as encore des bonnes chances, mais Shirley CV, t'étais barré.
À Boulevard. Pourquoi vous arrêtez pas de vouloir m'envoyer à Radcan?
Ah ben, on a des fantasmes comme ça, là.
depuis te voir la face.
Mais moi... C'était Shirley Caron-Vézina à Québec.
Ici Pascal Caron-Vézina, Québec.
Voilà.
Mais je le faisais avant.
À partir du moment où, avec ton nom et ton prénom, tu totalises 3 noms, je pense que tu peux travailler à Radio-Canada.
Est-ce que je peux faire un aparté?
Non.
Ce matin, au festival. Flo Rida s'en vient. Rise Against the Machine aussi.
Oui.
Écoutez un présentateur culturel de Radio-Canada nous parler de deux bandes et dire l'irrésistible flow de Flo Rida avec l'eau. Voilà, c'est tout.
En passant, c'est juste Rise Against. T'as fait l'erreur que du mal à la bombe. T'as dit Rise Against the Machine.
Bétain. C'est ça qu'ils ont dit. Je suis juste répété.
Okay. Mais c'est-tu lui qui chante Can You Blow My Whistle
Baby? Baby. L'irrésistible.
Ouais,
Florida.
Ça, quand c'était à la mode, Denis, ouais. J'avais tout le temps des malaises. Là. T'entendais des gens chanter, là, genre la secrétaire administrative là, qui était là et qui chantait cette tune-là.
C'est bien pire que la petite grenouille du
taux-crapaud.
C'est ce que
tu chantes.
Hey.
Moi, j'ai jamais eu ces problèmes-là. J'écoute du prog, ça parle de magiciens, de gnomes, de vaisseaux spatial.
Mais
moi,
on voit un peu le portrait des deux hommes.
On t'écoute
là.
À 14h.
Salut! Tantôt!